Je te remercie Thierry et je remercie les professeurs Antoine Compagnon et Alain Prochian de m'avoir invité pour vous parler de mythe et poésie, le darwinisme d'Edgar Quinet et Georges Renard. Alors, en m'interrogeant sur la rencontre du darwinisme et des enseignements littéraires au Collège de France, je pensais que les professeurs d'histoire littéraire du XIXe siècle et du début du XXe feraient écho aux théories transformistes. Pourtant, en épluchant un petit peu la liste de ces professeurs, je me suis rendu compte que ni Jean-Jacques Ampère, ni Louis de Loménie, ni Paul Albert, ni Émile Deschanel ne semblent avoir été sensibles au darwinisme qui leur fut peu ou prou contemporain. Ces professeurs du Collège de France restèrent dans les voies traditionnelles d'une histoire ou d'une critique littéraire, ignorant très largement les bouleversements épistémologiques induits par la vogue d'un évolutionnisme généralisé, qui suivit la diffusion et la déformation des idées de Charles Darwin. S'il y a un transformisme en histoire littéraire, on en trouve bien plutôt la trace chez Taine et chez Brunetière, qui sont deux fameux absents du Collège de France. Ces deux historiens et critiques littéraires virent toujours les portes de l'institution leur rester fermées, en effet. Quant à Sainte-Beuve, qui dut se contenter de la chaire d'histoire de la poésie latine de 1854 à 1869, il ne semble pas qu'il ait explicitement réagi à Darwin, mais seulement dans une magnifique et profonde page de son roman Volupté en 1834 à Lamarck. Quant à Michelet, si on regarde du côté de l'histoire, son interprétation du transformisme est passionnante, mais il semble qu'elle reste, même dans les dernières années de son œuvre, liée à Lamarck et non à Darwin. Alors, lors d'un précédent colloque interdisciplinaire sur l'héritage de Darwin, Antoine Compagnon exposa ici même les liens qui existèrent entre darwinisme et littérature en France, de Paul Bourget à Proust, comme nous l'avons appelé hier. Mais si les romanciers s'emparèrent volontiers de la question darwinienne, l'institution, elle, marqua plus de réticence. Alors peut-être que ces rendez-vous manqués entre le darwinisme et l'histoire littéraire peuvent nous apprendre quelque chose sur le Collège de France. Et d'ailleurs, les travaux d'Yvette Conry, que l'on a déjà cités, ont depuis longtemps indiqué les facteurs de résistance des institutions françaises au darwinisme. Tandis que ceux de Jean-Marc Bernardini ont montré les déformations que le darwinisme social imposa aux théories de Darwin. Mais je préfère me tourner vers les rares professeurs du Collège de France qui firent positivement le lien entre darwinisme et littérature. Et il s'agit, par un apparent paradoxe, de deux historiens, Edgar Quinet et Georges Renard. Alors, Edgar Quinet, professeur au Collège de France à la chaire de langue et littérature de l'Europe méridionale, de 1841 à 1846, puis de 48 à 52, puis de 70 à 75, publia deux ouvrages, La création en 1870, puis L'esprit nouveau en 1875, deux livres qui nous intéresseront à plusieurs titres. Tout d'abord, Quinet y théorise l'interdisciplinarité comme une conséquence du darwinisme, dans la mesure où c'est cette théorie qui fait le lien entre histoire et histoire naturelle. En effet, Darwin a donné une dimension historique aux sciences de la vie et, en retour, l'histoire de la vie a replacé l'histoire humaine dans le vaste contexte d'une histoire universelle. Dans ce cadre théorique, Quinet évoque à plusieurs reprises la littérature et les mythes. En effet, tout d'abord, il réexamine les mythes antiques à la lumière d'une histoire évolutionniste de la vie et de l'humanité. Selon lui, les créatures fantastiques de l'Antiquité doivent être compris comme la relation d'une histoire lointaine de la création, que les contemporains redécouvrent sous l'aspect du transformisme. Alors plutôt que de railler les monstres légendaires et les fables des anciens, Quinet propose d'y voir l'intuition d'une histoire transformiste du vivant. Et il écrit à propos des ossements d'animaux fossiles, ceci, « Les anciens remarquaient déjà combien ces restes étaient plus grands que les ossements d'hommes. Premier objet de stupeur et de vénération. À quels êtres avaient appartenu ces os? L'imagination hellénique répondit à cette question en créant ces légendes de géants aux pieds de serpents, de titans, de minotaures, de cyclopes, de lestrigons. Dernier retentissement du monde organique de l'époque tertiaire dans le génie grec. Vous retrouverez là une page de l'histoire de l'âge de pierre. Chacun de ces débris d'ossements qui aujourd'hui fournit un élément à la science fournissait alors un épisode à la légende. Ainsi s'est composé ce vaste royaume de monstres et de chimères qui sont une partie des religions grecques et, à travers la fiction, retiennent l'empreinte ineffaçable d'une réalité perdue. La fécondité incroyable de monstres qui fermentent au fond des religions grecques fait supposer qu'il y a eu à l'origine une faune monstrueuse. C'est là, en effet, que les découvertes et les fouilles récentes dans les couches terrestres miocènes mettent hors de doute. La réalité a été au moins égale à la fiction. La réalité égale à la fiction des anciens Grecs. Alors, Kinney applique encore ce principe d'interprétation à la mythologie, ce principe d'interprétation de la mythologie à la question de l'homme primitif, le premier homme. Mais direz-vous, je voudrais trouver un témoin vivant, immortel des âges préhistoriques. C'était la question de l'homme primitif dont on cherchait le fossile. Ce témoin existe, sachez le reconnaître. C'est Hercule idéen, tyrien, thébain, assyrien, car il se retrouve partout. En lui se montre l'homme préhistorique que vous cherchez. Kinney explique ensuite que les 12 travaux d'Hercule sont le récit mythifié de la lutte des premiers hommes contre un environnement hostile. Le mythe de la conquête de la nature par l'humanité. Alors, on voit comment Kinney fait le lien entre la paléontologie et l'histoire de l'Antiquité, puis avec la mythologie. Et il est alors prêt à sauter un pas. Après avoir étudié la fable en mythographe, il veut en combler les lacunes et en expliciter le sens en prenant lui-même la plume du poète. En effet, dans La Création, donc ce livre de 1870, il réécrit un poème perdu du grand poète grec Hésiode. L'histoire nous dit que ce poème portait sur les enseignements donnés par le centaure Chiron au jeune Achille. Je cite Kinney, « Hésiode avait composé un poème dont le titre atteste la grandeur, les leçons du centaure. L'ouvrage est perdu et ce ne sont pas seulement les poètes qui doivent le regretter. » Que n'avait pas à nous apprendre des secrets de la nature cet être étrange, animal jusqu'à la ceinture, demi-dieu par la tête. De fait, Kinney met dans la bouche de cette chimère un récit à la fois mythique et scientifique des premiers âges de la vie. Car la fable lui apparaît comme le témoignage que dès l'Antiquité, la poésie exprimait cette intuition qu'ont existé des formes de vie bien différentes de celles qui nous sont contemporaines. D'une manière générale, dans La Création et dans L'Esprit Nouveau, Kinney appelle les sciences historiques dans leur ensemble à prêter attention aux mythes comme porteurs de vérité, à condition de savoir les interpréter. Et dans le sens inverse, il encourage les arts et la littérature à s'inspirer du transformisme, de la paléontologie, de la géologie, c'est-à-dire des nouvelles sciences qui historicisent la connaissance de la nature. Pour que les arts se régénèrent, qu'ils traitent des sujets nouveaux, voire pour que les arts montrent à la science le chemin de ses futures découvertes. D'ailleurs, la littérature n'a pas attendu que naisse au XIXe siècle la vogue du roman préhistorique, que vous connaissez peut-être par La Guerre du Feu, qui naît trouve dans une œuvre ancienne un exemple de cette préscience visionnaire. Il évoque ainsi le personnage de Caliban, dans La Tempête de Shakespeare. Pour lui, Caliban, c'est la figuration du chaînon manquant de l'évolution, ni tout à fait homme, ni tout à fait bête, mais une étape intermédiaire. Je passe tout de suite au troisième paragraphe de cette citation. Si nous ne voulons plus de l'Adam de Milton, descendons d'échelon en échelon tous les degrés de la forme humaine, nous trouvons au bas le monstre qu'il nous faut. Shakespeare l'a rencontré dans La Tempête, il l'a nommé Caliban. Alors, la première relation qui se fait jour entre darwinisme et littérature, c'est donc le statut particulier que Kinney donne au mythe. Le mythe est ce qui permet de faire le lien entre la préhistoire et l'histoire, que ce soit en réinterprétant les mythes antiques ou en écrivant des mythes modernes éclairés par la science. Mais le rôle du darwinisme dans sa pratique historiographique est encore plus déterminant. En effet, à partir de son livre de 70, le projet d'Edgar Quinet est clairement ce que nous appellerions aujourd'hui l'interdisciplinarité. Il l'explique ainsi, « J'entreprends de faire entrer la révolution contemporaine de l'histoire naturelle dans le domaine général de l'esprit humain, c'est-à-dire d'établir les rapports de la conception nouvelle de la nature avec l'histoire, les arts, les langues, les lettres, l'économie sociale et la philosophie. Il s'agit de découvrir les points de relation entre le domaine des sciences naturelles et celui des sciences historiques, morales, littéraires. » Alors, selon ce principe, Quinet opère et légitime des analogies systématiques entre la nature et les sociétés humaines, entre des ordres de phénomènes de nature bien différentes. Bon, à nous autres qui avons eu bien des occasions de critiquer l'analogie sauvage entre sciences de la nature ou sciences mathématiques et sciences humaines, hein, je vous renvoie à l'affaire Sokal et Bricmont il y a une vingtaine d'années, cette méthode analogique entre des sciences très différentes peut nous paraître un peu suspecte. Mais Quinet entend réguler la relation entre histoire et histoire naturelle de cette manière. Il écrit « C'est de la rencontre de ces deux sciences que peut jaillir la clarté. Une seule n'y suffit pas. » Et il veut dire par là qu'on ne saurait simplement appliquer le darwinisme à l'histoire, mais qu'il faut aussi que l'histoire fasse valoir les droits de l'esprit humain qui sont étrangers à l'histoire naturelle. En effet, Quinet pense que Darwin a tort de désigner le hasard et le besoin comme les seuls moteurs de l'évolution, de la vie. Car ça conduit à penser que l'esprit humain n'est à chaque époque pas plus développé que ce que lui commandent ses besoins. Or, Quinet veut voir, disons, un principe transcendant qui gouverne et qui oriente le progrès de l'humanité. Sans employer l'expression, c'est déjà l'idée d'un dessein intelligent. De fait, Quinet est inspiré par la naturphilosophie allemande autant que par Darwin, et depuis bien plus longtemps. Dès 1827-28, il écrivait des articles sur Johann Gottfried Herder, en pleine période romantique. Donc il contrebalance la pensée darwinienne par un spiritualisme bien plus proche de ce que font dans leur domaine Victor Hugo ou Michelet. Alors c'est avec cette ligne directrice que, dans l'Esprit Nouveau, il aborde les questions d'histoire et de politique. Il pose par exemple la question de savoir si la conception humaine de la justice est compatible avec le principe de concurrence vitale, de lutte pour la survie. Il ne faut pas oublier que Quinet pense à cela depuis la Suisse, où il s'est exilé suite au Second Empire. Donc les notions de justice sociale et politique ont une résonance bien particulière quand on écrit en 1870 ou en 75. Sur ce terrain, il fait appel à l'histoire, bien plus qu'au mythe, pour étayer sa réflexion. En revanche, il semble avoir inspiré un poète, Sully Prudhomme. Je ne sais pas si on connaît encore bien l'œuvre poétique de Sully Prudhomme, mais enfin, ce fut quand même le premier prix Nobel de littérature, ce qui met au moins au même niveau que Bob Dylan. Donc Sully Prudhomme, qui avait publié quelques années après les livres de Quinet, un grand poème philosophico-scientifique intitulé « La justice », qui reprenait le questionnement de Quinet et nombre de ses arguments. Et il fondait une grande partie de ce poème sur Darwin, qu'il avait lu très attentivement et avec beaucoup d'acuité pour l'époque. Mais bien sûr, la mise en forme poétique favorisait la reprise de clichés parce que ces clichés étaient particulièrement parlants et spectaculaires. Ainsi, quand il parle de ce qu'il appelle la lutte de tous contre tous, ce qui est ce que le grand public avait le mieux retenu ou compris du darwinisme à la fin du XIXe siècle. Je vous cite ce sonnet hein, qui fait partie d'un poème de plus de 200 pages. Nul germe en l'univers ne tire du néant de quoi fournir son type et tarir sa puissance. Chaque vie à toute heure est une renaissance où les forces ne font qu'un échange en créant. Aussi, tout animal, de l'insecte au géant, en quête de la proie utile à sa croissance, est un gouffre qui rôde, affamé par essence, assouvi par hasard et par instinct béant. Aveugle exécuteur d'un mal obligatoire, chaque vivant promène, écrit sur sa mâchoire, l'arrêt de mort d'un autre, exigé par sa fin. Car l'ordre nécessaire, ou le plaisir divin, fait d'un même sépulcre un même réfectoire, à d'innombrables corps, sans relâche et sans fin. Alors, au terme de milliers de vers, d'un dialogue philosophique entre le chercheur et la voix de sa conscience morale, les conclusions de Sully Prudhomme sont plutôt pessimistes. Il avoue ne pas trouver dans la nature un fondement à l'idée de justice. Alors que Quinet enrôlait le darwinisme dans une théorie du progrès universel, Sully Prudhomme est plus circonspect. Mais son poème témoigne du fait que le darwinisme féconda la poésie, ou du moins un certain genre poétique, le poème scientifique, dont je vais vous citer un autre exemple chez un autre historien du Collège de France, Georges Renard. Alors Georges Renard, bien moins connu qu'Edgar Quinet, est né en 1847. C'est un normalien qui se destine à l'agrégation d'histoire, qui prend part à la Commune de Paris, qui doit ensuite s'exiler en Suisse, hein, comme nombre de communards, pour échapper aux poursuites, jusqu'à l'amnistie de 1879. En 79, justement, lorsque l'Académie française, excusez-moi, organise un concours de poésie, comme c'était la tradition depuis le XVIIe siècle, hein, l'Académie organisait un concours de poésie tous les ans sur un sujet imposé. Et en 79, le sujet est la poésie de la science. Il envoie un poème qui sera récompensé par un prix, mais contrairement à d'autres concurrents, il n'évoque pas les théories de l'évolution dans ce poème. Bon, le temps passe, Renard revient en France et à la faveur de la Troisième République, il poursuit sa carrière de critique littéraire d'une part, d'historien d'autre part, au Conservatoire des Arts et Métiers. Entre 1893 et 1898, il publie des articles de critique littéraire qui seront réunis en 1900 sous le titre « La méthode scientifique de l'histoire littéraire ». Dans cet ouvrage, il disserte des causes et des lois, je reprends ces termes, hein, causes et lois de l'évolution littéraire. Il n'a même pas besoin de commenter ce terme d'évolution, hein, tant il est déjà passé dans le vocabulaire scientifique et même dans le langage courant. Et il tient d'ailleurs pour acquis que l'histoire littéraire doit être une branche de l'histoire et qu'à ce titre, elle doit être scientifique, avoir une méthode scientifique. Et un aspect particulier de cette méthode, selon lui, c'est que la littérature ne doit pas être coupée des autres éléments qui font l'histoire. La société, la politique, l'économie, ainsi que les autres domaines de l'histoire culturelle, et notamment les sciences. En effet, il y a une conception holiste de la culture, hein, la culture comme un tout. Il exprime ceci ainsi. On peut à toute époque relever entre les caractères essentiels de la littérature régnante et le groupe des sciences qui prédomine une analogie. D'où ressort cette vérité, aujourd'hui presque banale, qu'une société à un moment donné de son existence est un ensemble organisé dont les diverses parties sont en harmonie. Et vous remarquez au passage hein, cette métaphore de l'organisme désignant la société ou même la culture d'une société. Ainsi, par exemple, le moment réaliste de la littérature du XIXe siècle correspond pour lui logiquement au développement des théories de l'évolution et du darwinisme. Il voit une unité philosophique entre ces différentes expressions d'une même vision du monde. Je le cite, « Il est visible ainsi que les invectives passionnées de Goncourt, la conception mélancolique de Sully Prudhomme et les théories de Darwin sur la lutte pour la vie sont des choses du même temps. trois formes d'une seule et même idée qui flottaient dans l'air ambiant. Il affirme aussi, après bien d'autres, que les innovations scientifiques ouvrent de nouveaux horizons aux écrivains et que leur inspiration s'en trouve renouvelée. Il est ainsi l'un des derniers auteurs, au début du XXe siècle, à plaider pour une poésie scientifique qui réalise l'union intime de la science et de la poésie. Alors, ce faisant, il se souvient sans doute de son poème de jeunesse sur la poésie de la science qu'il avait proposé à l'Académie. Il complète d'ailleurs ce poème en l'augmentant considérablement et il en fait une longue épopée universelle publiée en 1925 sous le titre « La nature et l'humanité ». Poème publié, c'est assez remarquable, aux presses universitaires de France, donc chez un éditeur universitaire bien reconnu. Entre-temps, donc là je parle de 1925, mais entre-temps il avait obtenu en 1907 la chaire d'histoire du travail au Collège de France. Alors l'histoire de cette chaire est un petit peu particulière parce qu'il n'a pas été élu par ses pairs, il a été nommé par le gouvernement, il s'agit d'une petite manœuvre politique. Alexandre Millerand, député, ancien ministre, futur président de la République, l'a transféré en quelque sorte du Conservatoire des arts et métiers au Collège de France pour arranger ses amis. Bon, ça fit grincer quelques dents sans doute au Collège de France, mais Renard finit par y être accepté. Alors la somme de travaux et de cours que Renard consacra à l'histoire du travail, depuis la préhistoire jusqu'à l'époque contemporaine, cette somme de travail est sensible dans son grand poème, où il cherche à exprimer une continuité entre le travail de la nature pour former le monde et le travail des hommes pour maîtriser la nature. Dans cette épopée universelle, il relate les origines du monde, les origines de la vie, les origines de l'humanité. Il expose en vers la théorie de l'évolution et de la sélection naturelle. Il est ainsi l'un des derniers représentants de l'idéal académique d'une union des disciplines et d'une culture générale de l'honnête homme. Et il est aussi le témoin d'une ambition interdisciplinaire qui sut mettre à profit l'héritage darwinien. Alors, au-delà des idées que Darwin exprima précisément sur l'évolution des espèces, le darwinisme, c'est, entre beaucoup d'autres choses, le nom d'un principe d'évolution qu'on suppose universel. Je vous cite quelques vers qui expriment ce principe philosophique. Mais quoi, si l'être est dans ses grandes lignes déterminé par le moule ancestral, s'il est fidèle au type général que la nature à son espèce assigne, peut-il pourtant se soustraire à la loi universelle et toujours agissante, dont le pouvoir, qu'on résiste ou qu'on sente, transforme et force à différer de soi tout ce qui vit, plante, animal, personne, espèce entière ou simple individu. Alors, comme pour la plupart de ses contemporains, l'évolution est, pour Georges Renard, une loi naturelle, mais elle rejoint l'interprétation de l'histoire en termes de progrès. Ainsi, ce ne sont pas seulement les espèces qui évoluent, mais toutes choses, de la matière inerte jusqu'aux sociétés humaines, en passant par tous les degrés de complexité. Et le détour par la poésie permet alors, mieux que la philosophie ou l'historiographie, d'user de l'analogie pour étendre le principe d'évolution à toute chose. Mais au-delà de ces grandes analogies, l'historien-poète, c'est aussi se faire poète naturaliste et descendre un petit peu dans le détail de la théorie darwinienne. Par exemple, le moindre trait en surcroît ou perdu altère un type ou le perfectionne. Des actions du dedans, du dehors font varier apparence ou structure. Les croisements, le milieu, la culture changent ainsi les esprits et les corps. Alors on voit bien dans ces quelques vers que ce n'est pas du darwinisme pur, mais plutôt un mélange de Lamarck, Darwin, sans doute également Taine et d'autres auteurs, puisqu'il confond où il réunit la transformation de l'individu et la transformation de l'espèce, les influences extérieures, le milieu, et aussi une action intérieure. Bref, une synthèse de différentes conceptions du transformisme. Il poursuit ainsi, « Ainsi la vie, en cela concurrente du vieux Protée, est évolution en même temps que répétition, toujours semblable et toujours différent. » Alors cette allusion à Protée, hein, la divinité marine douée du pouvoir de se métamorphoser, nous rappelle que, pas plus que chez Quinet, la nouveauté scientifique ne s'oppose à la mythologie. Au contraire, la mythologie fournit les noms et l'imagerie qui permettent de faire le lien entre imagerie classique et idées nouvelles. Alors, en disant que la vie est évolution en même temps que répétition, hein, deux mots dont la rime fait entendre le rapprochement antithétique, Renard souligne ce double aspect contradictoire de l'hérédité et de la variabilité. Alors, ces vers, je n'en doute pas, vous ont paru un petit peu pataux, hein, ce n'est pas du Baudelaire, effectivement, ce n'est pas même du Hugo, mais c'est effectivement un genre de poésie qu'on a oublié, qu'on n'a pas forcément appris à lire. Pourtant, Georges Renard emprunte là à toute une tradition de poésie scientifique. Il emprunte même au Victor Hugo de la fin, au grand poème philosophique de Hugo, à la fin de sa vie, qu'on ne lit plus, qu'on ne soupçonne même plus, qui fut pourtant très vivace jusqu'à la toute fin du XIXe siècle. Rien que ce dernier vers, hein, toujours semblable et toujours différent, qui balance l'antithèse sur les deux parties du décasyllable, ça sent son Victor Hugo d'assez loin. À la même époque, j'aurais pu vous montrer un poète avant-gardiste tel que René Gill, qui revendiquait une poétique évolutionniste et instrumentiste, dans des vers beaucoup plus surprenants, beaucoup plus avant-gardistes. Mais j'ai voulu m'en tenir pour aujourd'hui à Georges Renard, parce qu'il représente l'institution, donc une pratique assez académique. Alors je vais reprendre ma lecture du poème et je passe son explication de la génération spontanée, le récit de la naissance des premières formes de vie cellulaire, bref, des morceaux qui se ressentent bien plus de l'influence de Haeckel que de celle de Darwin. Puis on a ceci. Passage décisif du monde mécanique à la complexité de la vie organique. Un abîme est franchi. Sans bruit et par degrés, la nature en travail vers des buts ignorés s'achemine. Et bientôt, la naissante cellule se nourrit et s'accroît, se dédouble et pullule. Semblable et différente, elle se reproduit et c'est un monde entier qu'elle crée et construit. Car de fait, le héros, ou plutôt l'héroïne de cette épopée, c'est la nature. Et vous imaginez les problèmes de poétique que cela pose. Hein, ici, contrairement à ce que Florence recommandait à la suite de Cuvier, il est indispensable de personnifier la nature pour en faire une héroïne. Hein, elle devient un personnage à part entière. Donc la poétique du poème scientifique est à l'opposé de la poétique du discours scientifique. Et j'en arrive au principal lieu commun qui retint l'attention des écrivains à donner au darwinisme, c'est-à-dire le lieu commun de la lutte pour la vie. La bataille est multiple et rude, il faut lutter, non pour dominer mais pour vivre. Il faut lutter d'abord contre la cruauté des caprices auxquels se livre la nature, en passant par de brusques à-coups, du chaud au froid et du calme à l'orage. Les uns, pour s'adapter à ces changements fous, changent de mœurs ou de parage. Mais d'autres, moins adroits, périssent. Et combien d'individus, voire d'espèces, descendus pour jamais au monde souterrain, dorment dans ces couches épaisses, auprès des noirs monceaux de bois carbonisés, engloutis par un cataclysme. Donc, les fossiles des formes de vie perdues. Ici, on a l'impression que Renard se réfère à la théorie des catastrophes, hein, qui aurait englouti les fossiles. Bon, il y a vraiment un éclectisme théorique très, très grand. Il faut lutter encore, bec et croc aiguisés, c'est la lutte à son paroxysme. Contre des concurrents ayant même appétit, rivaux d'amour, rivaux de chasse, convives d'un banquet trop rare et trop petit, pour qu'à leur faim, ils satisfassent. Alors je signale, pour répondre à une question qui a été posée hier, hein, que ce petit morceau de vers, Rivaux d'amour, c'est la seule mention de la sélection sexuelle dans tout le poème. Donc effectivement, c'est vraiment le parent pauvre du darwinisme. Et le sang coule à flot. Alors ça, vous avez des flots de sang, hein, dans toute la poésie darwinienne. Pour vivre, il faut tuer. Le meurtre au carnassier s'impose. La faim, l'ardente faim, le force à se ruer sur un corps qui de sang l'arrose. Mais vivants préparés par les mangeurs de chair, les mangeurs d'herbes pacifiques, sont une proie aisée, à moins qu'un mâle fier n'entame un combat héroïque. Au tigre, l'antilope et la brebis au loup. Sous les dents, les os craquent. Alors c'est une bien étrange poésie, surtout en 1925, époque où elle ne se pratique plus que très rarement, que cette poésie scientifique. Pourtant, elle reçoit la caution de cet éditeur universitaire patenté, les Presses universitaires de France. Et ainsi, ce poème, qui ne fait peut-être pas partie de la production la plus officielle du professeur au Collège de France, semble recevoir néanmoins un minimum de reconnaissance académique. La situation a pourtant bien changé depuis cet autre professeur du Collège de France, Jacques de Lille, dit l'abbé de Lille, qui à la fin du XVIIIe siècle et au début du XIXe avait fait sa spécialité de la poésie scientifique, hein, qui représentait l'essentiel de sa production. À la mort de Delille en 1813, le poète scientifique, enfin, son corps avait été exposé une semaine dans ses murs, a été visité par des milliers d'auditeurs du Collège de France qui étaient venus lui rendre hommage. Et donc on voit bien le fossé entre le Premier Empire et la Troisième République. La poésie scientifique est passée de mode et elle a perdu à la fois sa légitimité esthétique et sa légitimité savante. Pourtant, il me plaît de penser que pour Georges Renard, à la fin de sa carrière, c'était un petit peu la cerise sur le gâteau, une manière de rappeler que, selon un idéal académique ancien, poésie et savoir pouvaient s'unir. Et un digne savant n'avait pas à rougir de publier des vers. Alors pour conclure, sur mes deux historiens, Quinet et Renard, je dirais que Renard se situe dans le sillage de son prédécesseur Edgar Quinet, hein, tant ils se sont tous les deux nourris de l'imaginaire darwinien, à la faveur du rapprochement de différents modes d'écriture et de pensée. Toutefois, entre Quinet et Renard, l'enthousiasme transformiste s'est teinté de méfiance, car le socialiste Georges Renard n'ignorait pas que le spencerisme, le darwinisme social, promouvaient une vision politique de la société bien contraire à ses idéaux d'égalité et de fraternité. Mais chez ces deux historiens du Collège de France, le darwinisme féconda la pensée interdisciplinaire de deux manières. D'une part, en enrichissant la méthode historique, ses sujets, ses objets et ses enjeux, et d'autre part, en suscitant une sorte de création littéraire, le mythe en prose pour Quinet, l'épopée versifiée pour Renard. Je nuancerai néanmoins cette conclusion en faisant la part de ce que ces innovations tirent des idées de Darwin et de ce qui n'est qu'un effet d'opportunité. En effet, les travaux de Darwin ne sont que rarement lus et compris dans leurs détails. Leur spécificité, leur nouveauté échappent bien souvent. Dès lors, le nom de Darwin est souvent invoqué comme un prétexte ou une caution scientifique, hein, un sésame à la mode qui légitime des pratiques qui en fait doivent beaucoup et parfois encore plus à la résurgence de pratiques ou d'idées anciennes, voire antiques. Alors en nouant des liens entre histoire et histoire naturelle, entre mythologie et poésie, Quinet et Renard innovaient peut-être, mais nous pouvons aussi affirmer qu'il renouait avec une conception unitaire de la culture qui renvoie à l'âge classique, voire à l'Antiquité. Je vous remercie de votre attention.